Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqarah. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر اللَّهِ قَرِيبٌ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment ?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonjour amis auditeurs, ravis de vous retrouver en ce dimanche 20 février 2022. Nous allons vous présenter tout de suite le journal, suivi d'un commentaire politique. Métro de Gaza, sommet en ordre de bataille. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci de votre écoute. À la une de ce journal nucléaire, le Parlement iranien a mis en garde contre un accord sans garantie à Vienne. Conversation téléphonique Macron-Raïssi, tout accord de Vienne doit supprimer toutes les sanctions anti-iraniennes, fournir des garanties crédibles, insiste le président iranien. Et puis Iran appelle à un soutien international pour les Palestiniens de Sheikh Jarrah. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le Parlement iranien a mis en garde contre un accord sans garantie dans une déclaration adressée au président Raïssi. 250 membres du Parlement iranien ont demandé qu'en mettant une ligne rouge sur les intérêts du peuple iranien et sans obtenir les garanties nécessaires, il ne faut pas s'engager à aucun accord avec ceux qui ont déjà brisé leurs promesses. Selon le correspondant parlementaire de l'IRNA, lors d'une séance publique, aujourd'hui dimanche 20 février, la déclaration a été lue par 250 représentants adressés au président. Tout accord à Vienne doit contenir la levée des sanctions, des garanties verbales et la fin des questions et revendications politiques, a déclaré le président Ebrahim Raïssi à son homologue français. S'adressant au président français Emmanuel Macron lors d'un appel téléphonique, le président iranien a déclaré que la République islamique d'Iran a fait des propositions constructives au cours des négociations et a réfléchi aux propositions avancées par les autres parties aux négociations sur la base de leur comptabilité avec les intérêts du peuple iranien. L'équipe négociatrice iranienne a déclaré à plusieurs reprises qu'elle se félicitait des initiatives qui garantissent et protègent les droits du peuple iranien, a déclaré le président Raïssi, tout en soulignant que des pressions politiques ou des revendications ont été faites dans le but de maintenir la pression sur le peuple iranien qui sape la perspective de parvenir à un accord. Il a insisté que tout accord à Vienne doit contenir la levée des sanctions, fournir une garantie valable et mettre fin aux questions et revendications politiques. Le président français Emmanuel Macron, pour sa part, a déclaré que de bons progrès ont été réalisés dans les pourparlers de Vienne et nous espérons, je cite, que les pourparlers seront conclus dès que possible. Le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian a rencontré samedi soir le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, en marge de la 58e conférence de Munich sur la sécurité. Lors de cette entrevue, le ministre iranien des Affaires étrangères dit qu'il est temps pour les États-Unis et la partie européenne de montrer qu'ils sont prêts à parvenir à un accord en prenant rapidement des décisions politiques. Le ministre iranien a déclaré qu'au sans les initiatives de l'Iran, les parties ne seraient pas aussi proches de l'accord qu'elles le sont actuellement. Mais il a insisté sur le fait que les lignes rouges de Téhéran seraient en place. Plutôt, dans une interview accordée à CNN, Amir Abdollahian a déclaré que l'Occident, les États-Unis en particulier, seraient responsables d'un éventuel échec des pourparlers. Le porte-parole des douanes iraniennes a déclaré que les exportations de marchandises iraniennes vers les pays membres de l'Organisation de coopération économique, OCE, avaient augmenté de 51% par rapport à l'année dernière. L'Iran, la Turquie, le Pakistan, l'Afghanistan, la République d'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, le Turkménistan, le Kirghizistan, l'Ouzbékistan et le Tadjikistan sont les 10 pays membres de l'OCE. Rohallah Latifi, porte-parole des douanes iraniennes, a déclaré « Cette année, le commerce de l'Iran avec les pays membres de l'OCE a atteint plus de 13 milliards et 110 millions de dollars et pèse 24 758 000 et 827 tonnes, ce qui montre une augmentation de 41% en valeur et 25% en poids par rapport à l'année dernière. » Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a appelé la communauté et les organisations internationales à remplir leurs obligations juridiques et humanitaires en faveur des résidents de Sheikh Jarrah. Dans une déclaration, Saïd Khatibzadeh a condamné les actes racistes du régime sioniste en forçant les résidents palestiniens de Sheikh Jarrah à quitter leur maison. Il a également exprimé sa solidarité avec le peuple palestinien. En tant qu'habitant indigène de cette ancienne terre du berceau des religions divines, il a souligné la nécessité de soutenir le peuple palestinien contre la politique d'apartheid du régime tueur d'enfants d'Israël. Enfin, la crise en Ukraine, suspension des vols de certains pays européens vers Kiev. Face à l'aggravation de la crise ukrainienne, la compagnie aérienne suisse suspend temporairement ses vols vers l'Ukraine dès lundi. Les autres compagnies aériennes du groupe Lufthansa ont également annoncé samedi qu'elles suspendraient leurs vols vers l'Ukraine à partir de la semaine prochaine. La France, l'Allemagne, le Royaume-Uni recommandent à leurs ressortissants de quitter l'Ukraine et appellent ceux se trouvant dans les zones les plus exposées au risque de guerre dans l'est du pays à s'en éloigner sans délai. De son côté, la compagnie aérienne allemande Lufthansa annonce la suspension de ses vols vers Kiev et Odessa à partir de lundi 21 février pour une semaine. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique reste avec nous. Merci. Métro de Gaza s'en met en ordre de bataille. Le pouvoir de dissuasion de la résistance palestinienne effraie le régime d'Israël. Aucun média mainstream n'ose en parler, et pourtant, elle est bien là. Les combats ont atteint les colonies sionistes, non plus seulement à la porte de Gaza, autour de la Cisjordanie et dans des quartiers mixtes en Palestine historique. Le Meshova est rallumé à Sheikh Jarrah et depuis le feu s'étend rapidement. Après des explosions de voitures et fusillades à Ashdod, à Ashkelon, en début de la semaine, les échanges de tirs et la liquidation de sionistes se poursuivent à travers tout le territoire occupé, sous les yeux totalement impuissants de la police et de l'armée sioniste. Parallèlement, le spectre d'une escalade balistique plane sur l'entité. Suite aux actes provocateurs de l'armée et des colons israéliens en Cisjordanie et à Arutz, les commandants de l'armée israélienne ont envoyé un médiateur égyptien à Gaza, de peur qu'une nouvelle guerre n'éclate dans la bande de Gaza. En vérité, c'est la dissuasion créée par la résistance qui pousse Israël à éviter une future guerre dans les territoires palestiniens. Israël a une fois de plus frappé la porte à l'Égypte, lui demandant de jouer son rôle en tant que médiateur entre la résistance et Tel Aviv, pour le sauver du danger d'une nouvelle confrontation avec la résistance palestinienne, qui a démontré son pouvoir de dissuasion lors de sa dernière confrontation avec les occupants lors de la bataille Épée de Rhodes. Alors que les combats se poursuivent en Cisjordanie et à Rhodes, et que les commandants israéliens craignent maintenant une nouvelle offensive de la résistance à Gaza, le médiateur égyptien s'y est dépêché dans l'espoir de pouvoir empêcher une nouvelle tempête balistique. Pendant cette semaine, les actions coordonnées des colons et de l'armée israélienne dans le quartier de Sheikh Jarrah, dans la ville sainte de Rhodes, ont troublé l'atmosphère de cette ville. Dans la mesure où les représentants palestiniens de la Knesset sont entrés dans l'affaire du quartier de Sheikh Jarrah et les citoyens d'autres régions en Cisjordanie se sont confrontés avec les forces d'occupation israéliennes en signe de soutien à Rhodes. Pendant cette semaine, les actions coordonnées des colons et de l'armée israélienne dans le quartier de Sheikh Jarrah, dans la ville sainte de Rhodes, ont troublé l'atmosphère de cette ville. Même les représentants palestiniens de la Knesset se sont impliqués dans l'affaire du quartier de Sheikh Jarrah, tout comme les Palestiniens d'autres régions en Cisjordanie qui se sont confrontés avec les forces d'occupation israéliennes en signe de soutien à Rhodes. La résistance a également envoyé des messages d'avertissement aux Israéliens. Étant donné que les données de terrain indiquent que la résistance se prépare à apporter une autre fois son soutien aux habitants de Rhodes, les Israéliens tentent de faire tout leur possible, sous peine de revivre une autre décade marquée par milliers de missiles. D'ailleurs, les concessions se multiplient. Israël a donné le feu vert à l'augmentation de l'importation de produits de base dans la bande de Gaza et à l'exportation des produits de la bande de Gaza en dehors de la région. Il a également approuvé la délivrance du permis de travail aux Palestiniens. Les analystes israéliens pensent que ces mesures sont prises pour empêcher une nouvelle guerre dans la bande de Gaza. Ces décisions, le coordinateur sioniste les a adoptées alors qu'il a une haine de longue date à l'égard des habitants de la bande de Gaza. Il était le commandant du soldat israélien Shaul Aaron, disparu lors de la guerre de 51 jours en 2014 et dont le sort reste toujours indéterminé. Dans le temps, l'entité exigeait l'échange des prisonniers, mais puis maintenant, c'est ce qu'il a diablement peur après avoir reçu des données du terrain indiquant que les groupes de résistance dans la bande de Gaza se préparaient à une confrontation militaire. Tel Aviv a alors appelé le Caire sans trop d'espoir. Parallèlement, le ministre de la guerre d'Israël, Benny Gantz, a ordonné à l'armée de renforcer les abris de la colonie de Sderot, près de Gaza, en utilisant des vitres de 32 mm. Certes, le plan est censé être mis en œuvre dans d'autres villes autour de la bande de Gaza. Gantz a pris cette décision puisque lors de la bataille Épée de Rhodes en mai 2021, les missiles de la résistance ont réussi à pénétrer dans de nombreux abris israéliens. Ces évolutions coïncident avec les premières opérations de grande envergure du Hezbollah contre le nom d'Israël ce vendredi, ce qui pousse les experts à poser la question suivante : lequel des deux attaquera d'abord, l'entité Gaza ou Hezbollah ?
Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne, Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors aujourd'hui, nous allons parler bien sûr de cette mobilisation importante anti-fasciste française des Maliens, justement une France qui, depuis 9 ans, n'a pas cessé de planter son couteau du terrorisme dans le dos des Maliens et a tout fait pour neutraliser économiquement et militairement ce pays afin de piller ce pays. Dans cette émission, nous allons nous concentrer particulièrement sur les sanctions exercées à l'encontre des responsables maliens par la France et des sanctions qui n'ont rien donné car le site France 24 a clairement passé à l'aveu, a dit que ces sanctions n'avaient rien donné justement. Et en cette raison, le ministre des Affaires étrangères du Mali s'est rendu cette semaine à Téhéran, rencontrant son homologue iranien, justement pour profiter de l'expérience iranienne dans ce domaine, car depuis 40 ans, les sanctions exercées à l'encontre de la République islamique d'Iran n'ont rien donné à transformer l'Iran en un pays autosuffisant. Voilà, nous allons développer cette question à l'aide des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie.
C'est extraordinaire cet aveu d'échec de la France qui s'illustre sur le site de la chaîne télévisée France 24 dans ses quelques phrases inaugurales commentant l'impact de l'embargo sur le Mali. Les voisins du Mali espéraient début janvier qu'un embargo économique ferait plier la junte à la tête de ce pays pauvre et enclavé. Mais un mois après, si de premiers signaux d'alerte sont là, les autorités dominées par les militaires font front. Le voyant le plus visible s'est peut-être allumé fin janvier, quand le Mali s'est retrouvé dans l'incapacité d'honorer des remboursements de plus de 30 millions de dollars empruntés sur le marché ouest africain. Ces quelques phrases d'une nauséabonde d'hypocrisie et qui se veulent diviseuses à l'endroit des Ouest-Africains, alors même que le monde entier sait parfaitement que la CEDEAO est un moyen de chantage, de division, d'auto-affaiblissement, d'auto-endettement conçu par les puissances néocolonialistes contre l'Afrique de l'Ouest se démentent d'elles-mêmes. Et comment ? Elles reconnaissent que l'embargo signé par Kanessi, qui aurait dû mettre au pas, à peine en quelques jours, le peuple malien, est un cuisant revers, un peu comme cet embargo anti-Iran qui dure depuis 40 ans et qui a fait de l'Iran un pays autosuffisant. Puis, ces quelques phrases, mais là où elles veulent insinuer que les Maliens commencent à en avoir assez et partant à râler, se démentent encore. Et comment ? Une population éprouvée par 10 ans de conflits et de crises économiques, tout lecteur et à commencer le lecteur pro-résistant de ce site, se demande aussitôt, mais qui a causé ces 10 ans de guerre et de crise économique ? N'est-ce pas la France qui a occupé le nord du Mali puis le centre pour étendre son ancien destructrice au sud sous prétexte d'avoir à combattre les terroristes ? Et puis cette économie malienne avec tous ces chiffres que les multinationaux nous font sortir sur les mines d'or découvertes, sur l'uranium dont les cours ne cessent de monter au grand bénéfice des multinationales. Pourquoi est-elle en crise encore après un si long séjour français ? Le calcul de la CEDEAO et de l'UEMOA est simple, que l'embargo force les autorités dites de transition à soumettre un calendrier acceptable de retour des civils au pouvoir. Le Mali, dépourvu d'accès à la mer, importe 70% des denrées consommées quotidiennement par ses habitants selon l'ONU. Et le lien aujourd'hui restreint avec le Sénégal ou la Côte d'Ivoire est vital. Cheguel Kokala Maïga, chef du gouvernement installé par les militaires, fustigeait lundi les sanctions comme des mesures injustes et sauvages, dont l'objectif est d'asphyxier le Mali et de renverser le régime pour le compte de qui l'on sait, claire référence à la France devenue l'objet récurrent de sa vindicte. Et oui, la plupart des Maliens adhèrent à cette hypothèse et comblent de malheur pour la France, la plupart des Ouest-Africains en font autant. Et c'est pour cela que l'embargo US-France-OTAN contre le Mali a été si judicieusement tourné au ridicule, car aucun État-nation côtier n'y adhère réellement. Cela rappelle la campagne de pression maximale US contre l'Iran dont les Américains disent en ce 2022 qu'elle a été la plus grosse erreur géostratégique qu'ils aient jamais commise. En Asie de l'Ouest, il y a un vent similaire qui souffle sur l'Afrique de l'Ouest.
Alors voilà pour le reportage. Merci d'être avec nous. Vous regardez l'émission Le Débat. À présent, j'ai le grand plaisir de vous présenter nos deux chers invités, en commençant par M. Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles. M. Michel, bonjour.
Bonjour, bonjour votre plateau, bonjour professeur Dortiguier. Vous savez que je suis étroitement la situation malienne, puisque je suis proche du mouvement Yerewolo et de sa leader Amina Fofana, qu'on appelle la dame de fer de Bamako, qui sont à la pointe de la révolution malienne.
Parfaitement. Donc, vous êtes très bien placé pour répondre à nos questions. Un grand bonjour à Monsieur Pierre Dortiguier, politologue depuis Toulouse. Monsieur Dortiguier, bonjour.
Bonjour, monsieur. Bonjour à tous vos auditeurs. Et bien sûr, avec mes remerciements pour la présence de Monsieur Luc Michel, qui est le meilleur observateur, à notre avis, sur cette question.
Voilà, alors ma première question va s'adresser à Monsieur Luc Michel. Monsieur Luc Michel, alors pour commencer, c'est un peuple, le peuple malien, prêt à crever de la faim plutôt que de se soumettre à l'occupation étrangère. Je vous en prie.
Écoutez, le peuple malien applique ce que disait Sékou Touré en 1960 à De Gaulle. Il disait « Nous préférons vivre dans la misère que dans la suggestion coloniale ». Mais malheureusement, je ne partage pas l'optimisme de votre reportage. L'embargo est en train de frapper au cœur toute la région. Le Mali est en défaut de paiement vis-à-vis des instances internationales, ce qui était le but des Américains. Mais surtout, les économies agricoles sont en train de pourrir sur place dans toute la région, notamment en Côte d'Ivoire, en Guinée-Conakry et au Sénégal. Les services de renseignement militaire maliens ont intercepté et publié des conversations entre le premier ministre ivoirien Alassane Ouattara, qui est le principal agent de Macron dans la région, et l'ancien premier ministre malien Sissi. Ceux-ci avouent que le but des sanctions, c'est de détruire et de renverser le gouvernement malien. La France est en prise la main dans le sac, et la propagande française fait croire qu'actuellement la visite de Macron à Moscou, le but était d'échanger l'Ukraine contre le Mali. Ce n'est pas vrai, mais le but, c'est de faire paniquer les populations africaines. Pas du tout. La France n'a pas les moyens d'échanger l'Ukraine contre le Mali. C'est de la pure propagande, mais beaucoup d'Africains sont en train de paniquer. Et le but, évidemment, c'est la misère pour toutes les populations de la région.
Oui, en effet. Monsieur Pierre Dortiguier, vous êtes avec nous depuis Toulouse. Alors, c'est vrai que la France joue une nouvelle carte et la mobilisation anti-française au Mali est entrée dans une nouvelle étape. Alors, les sanctions exercées à l'encontre des responsables maliens, le France 24, justement, dans son site Internet, est passé à l'aveu. Il a dit que ces embargos n'avaient rien donné jusqu'ici, alors que Luc Michel pense le contraire. Que pensez-vous?
C'est-à-dire que, oui, ces embargos n'ont rien donné jusqu'ici, c'est une part de vérité, mais je crois que la stratégie aujourd'hui d'ensemble, je dis stratégie d'ensemble, employée par la France et d'autres États africains, peuvent contraindre, disons, ou sinon contraindre, tout au moins neutraliser, le mouvement politique qui est né au Mali. Je dis bien un mouvement politique parce que je parle du fond de l'affaire. Parce que dans les formes, c'est M. Le Drian d'ailleurs, et toute la diplomatie française y insiste, bien sûr, la forme, est la contestation, vous savez, de la légitimité de la politique malienne à cause des coups d'État, des deux coups d'État successifs qui ont eu lieu, c'est-à-dire et l'absence d'élection. C'est ce que là-dessus que M. Le Drian fait reposer son argumentation. Je crois que cette conception-là est une conception très abstraite et qu'en réalité, nous avons affaire à un blocus de la faim. Je ne vois pas d'autres mots plus adéquats. Mais il faut observer ce que j'ai compris en écoutant le ministre des Affaires étrangères du Mali, interrogé par une de nos chaînes de radio, de télévision, que la France s'est heurtée à une force armée malienne qui était formée dès l'époque dont vient de parler Jean-Luc Michel, à savoir à l'époque de Sékou Touré, vous savez, lors de la formation de la Nouvelle Afrique, disons, avec Focard, etc., La plupart, beaucoup de Maliens ont été formés à ce moment-là en Russie. Je parle de l'ancienne génération, je ne parle pas de la génération actuelle. Et donc, il y a eu, disons, un peu ce qui se passait justement en Guinée, c'est-à-dire qu'il y a une tradition de résistance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de ces militaires et hommes politiques, ne sont pas, surtout les militaires, ne sont pas obnubilés, si je puis dire, par cette France-Afrique. Voyez, et donc, même s'ils sont dans une misère relative, si le pays est dans une misère relative, façon de parler pour adoucir les choses, il y a quand même une décision et une détermination politique. Ceci, je crois, est un fait nouveau. C'est le fait nouveau du Mali. Voyez-vous, il ne s'agit pas de parler d'élections ou pas d'élections. Il est très difficile, vous savez, de faire quand même des élections dans un pays qui est en état de guerre. Bon, de moins des élections qui soient convenables. Mais il y a un ressentiment de la population, mais surtout, je dirais ça de façon simple et définitive, il y a surtout une crainte de la France-Afrique, puisque c'est ainsi que nous l'appelons, voyez-vous, devant cette génération, non pas une première génération, mais une deuxième, troisième génération de militaires qui n'ont pas été formés dans le sens qu'espérait justement la politique, c'est d'ailleurs la politique gaulliste, c'est vrai, la politique de la Ve République, qui était par ailleurs, monsieur Jean-Louis Michel l'a dit l'autre jour, dans certains domaines américains, etc., et autres, très en avance et même très bénéfique au monde, mais sur le plan africain, nous avons été, cette politique française a été, bien sûr, dans la tradition de la Troisième République, Quatrième République, c'est-à-dire d'un colonialisme qui ne visait qu'une chose, c'est former les Africains à se battre et à mourir sur les champs de bataille européens. Voilà exactement quel était, avec évidemment les avantages que procurent les matières premières et autres, voyez-vous. Je crois que ces événements maliens auront une importance très grande sur l'avenir de la politique française intérieure chez nous. Je pense que cela pourrait même, dans ses conséquences, peut-être mettre en cause le régime politique que nous avons connu avec l'instauration de la Ve République. C'est-à-dire que cela va fragiliser et ébranler nos institutions et créer de nombreux mécontentements à l'intérieur des élites et du peuple français.
Sans aucun doute. Oui. Luc Michel, M. Pierre d'Ortiguier parle bien sûr de cette détermination politique chez les Maliens, mais les sanctions existent et ça frappe bien sûr le pays et même les pays voisins. Et justement, vous avez dit l'autre jour en parlant du Mali que la Russie et l'Iran se rapprochent du Mali pour régler ce problème malien avec la bonne foi, bien sûr. Et justement, le ministre malien des Affaires étrangères a décidé de se rendre hier justement à Téhéran pour rencontrer son homologue iranien pour profiter de l'expérience iranienne dans ce domaine et de la Russie, bien sûr. Que pensez-vous?
C'est tout à fait exact. Vous savez, la France-Afrique, elle est en train de mourir. Le but des guerres coloniales depuis les guerres d'Algérie et du Cameroun dans les années 1950, c'était la conquête des esprits et des cœurs. La France-Afrique a perdu les esprits et les cœurs. Il y a un double phénomène. Les sanctions ont été une erreur majeure. Après la mesure qu'on détruit les économies de la région, la colère des populations africaines contre la France est en train de monter. La jeunesse est en révolte, pas seulement au Mali, mais aussi au Burkina Faso et dans tous les autres pays voisins, y compris en Côte d'Ivoire et ailleurs. Et les coups d'État pro-français, comme au Burkina Faso, puisque là-bas ce sont non pas des militaires pro-russes, mais des militaires pro-français, ils sont en train de dresser contre eux leur population, à la fois contre le régime illégitime néocolonial et contre la France. Au milieu de tout cela, les militaires maliens qui sont notamment le ministre de la Défense, le Premier ministre et le colonel Assimi Goïta, qui sont des pro-russes, maintenant se tournent également vers l'Iran. L'Iran intervient depuis 2 ans à côté de la Russie et elle est en train de mettre au point des mécanismes avec le Sénégal et maintenant avec le Mali pour contourner les sanctions. C'est un phénomène fondamental puisque la France est en train de perdre la main. Il y a un axe Alger, Bamako, Moscou et Téhéran qui est en train de se mettre en place pour contourner l'ordre néocolonial. C'est un phénomène contre lequel la France est impuissante. Ça existe, ça explique la colère des Français, la colère de Macron, de Parlier, de Le Drian. Ça explique pourquoi la France perd la main et pourquoi elle complote avec les agents français dans la région. Les colonels de Guinée-Conakry comme Doumbouya, les colonels comme d'Amico à Ouagadougou, et évidemment tous ces gens sont en train de perdre la France-Afrique, qui est en perte de vitesse et qui ne sait que mettre aux mains des mécanismes qui sont dépassés contre les peuples de la région.
Pierre d'Ortiguier, votre point de vue, je vous prie, concernant justement cette visite presque surprise du ministre malien des Affaires étrangères à Téhéran, rencontrant son homologue iranien, pour parler bien sûr de comment contourner les sanctions exercées à l'encontre des responsables maliens, mais également devenir un pays autosuffisant comme l'a réussi la République islamique d'Iran au cours de ces 40 dernières années. Et parlons bien sûr de la Russie, je vous en prie.
Bien sûr. La présence du ministre malien à Téhéran démontrerait très bien ce que Luc Michel a dit en début d'intervention, démontrerait la gravité de la situation au Mali. C'est-à-dire que la gravité dont nous n'avons pas ici, dans l'opinion française, à mon avis, une connaissance adéquate, une connaissance claire, précise. Cette présence montre que, vous savez que, je dirais que je ne vous apprendrai pas, bien sûr, la profondeur du blocus américain contre l'Iran et puis des alliés américains. Mais cette initiative, disons, malienne, je le redis encore, montre la gravité de la situation au Mali. Et je pense qu'elle sera suivie, à notre avis, d'un courant de sympathie envers l'Iran, c'est certain, de la part des États africains. Quels que soient les efforts de certains pays que je ne nomme pas, par exemple, en Afrique du Nord, par exemple, oui, pour pouvoir, disons, diminuer ou calomnier, disons, cette influence iranienne. Je crois que l'Iran, en effet, se présente quand même, c'est un acquis, comme ayant expérimenté et triomphé par la voie de la technique, bien sûr, la voie de, on peut dire, de l'autonomie. Tout ce blocus insensé, inhumain, voyez-vous, auquel, à mon avis, les préparateurs, dont les préparateurs ne doutaient pas du succès. Vous voyez, je crois qu'il y a eu, je ne dis pas, il ne faut pas non plus employer des mots trop importants, mais enfin, il y a eu de ce point de vue, peut-on dire, entre guillemets, un miracle iranien, c'est-à-dire le fait que votre pays ait pu tenir bon contre ce que n'importe quelle autre nation aurait, disons, cédé, voyez-vous, tant sur le plan matériel que sur le plan moral. Bien sûr, il y a...
Absolument.
C'est cela, à mon avis, qui, avec le temps, vous voyez, s'accroît. Parce que le temps grandit les choses. Le temps ne déforme pas les choses seulement. Mais le temps grandit le passé, voyez-vous. Et je crois que là-dessus, le temps africain à venir, c'est-à-dire c'est ce futur que nous connaissons en Afrique, va grandir justement le rôle qu'a eu l'Iran quand il s'agit de résister, de tenir bon, voyez-vous. J'ai souvent l'habitude, je m'excuse de répéter, mais ça c'est peut-être un défaut de mon métier de professeur de philo, mais quand je dis que l'imam Khomeini insistait, non pas sur le fait qu'il n'était ni d'Est ni d'Ouest, mais qu'il fallait rester soi-même, cela ne signifiait pas être hostile à l'Est ou à l'Ouest. Cela signifie qu'il fallait trouver en soi-même ce qu'on appelle l'autonomie, voyez-vous, les capacités de tenir bon. C'est ce qu'on appelle résister, d'ailleurs, en latin. Voyez. Et c'est cela, je crois que ceci est un, je ne dis pas un éloge de l'Iran, mais montre justement que l'Iran a, visé juste dans ses politiques, qui peuvent être plus ou moins comprises par les générations, bien sûr. Mais disons que je crois que le temps travaille justement pour cette résistance iranienne. Et cette résistance iranienne s'offre comme modèle. Elle prétend pas devenir un instituteur du monde, mais elle s'offre comme modèle, comme exemple, voyez-vous. Et je crois que la vertu de l'exemple, qui est toujours magnifiée par la suite, voyez-vous, à mon avis, laissera des traces et obligera les grandes puissances, je dis les grandes puissances, hein, à commencer par les États-Unis, a modifié quand même l'attitude arrogante qui était celle jusqu'à présent, et donc je dois dire que même l'attitude, à mon avis, le sommet de l'attitude arrogante a été celle de Trump, évidemment, avec l'assassinat du général Soleimani. Je dois dire que je n'ai jamais connu, à mon avis, un tel cynisme en politique. Et ce cynisme aussi était aux dimensions, voyez-vous, de la peur, pas de la peur, mais disons de la constatation, de la capacité de tenir bon de l'Iran. Voilà, il faut, dans le malheur, il faut aussi voir les marques, pas du bonheur, mais dans le mal, il faut aussi voir l'empreinte du bien.
Et tout à fait. Luc Michel, tout de même, jusqu'ici, le rapprochement entre l'Iran, la Russie et le Mali était presque à l'ombre. Les responsables maliens ont déclaré que la Russie, depuis qu'elle a décidé de mettre à la disposition des Maliens des armes, ils ont tué plus de terroristes en un mois qu'ils ont tué en 20 ans par les forces étrangères, dont la France. Mais cette visite du responsable malien à Téhéran, est-ce qu'on peut dire que c'est pour mettre à jour justement ce rapprochement? Donc, il décidait une fois pour toutes de se rapprocher, donc ça sera divulgué par le monde entier que le Mali est avec l'Iran et la Russie pour régler le problème malien.
Il faut comprendre ce qui se passe géopolitiquement. Le Mali est au centre d'une guerre par procuration avec la Centrafrique entre le bloc américano-occidental avec Paris et Washington et le bloc de l'Est avec Moscou, Pékin et Téhéran. La guerre qui se déroule là-bas, c'est d'un côté la guerre hybride de la Russie et de l'Iran contre la guerre classique, économique, médiatique et militaire du bloc occidental. Il ne faut pas oublier que si la guerre hybride a été inventée par la Russie en Ukraine en 2013, ce sont les Iraniens qui l'ont inventée en 2006 au Liban. Précisément, au Liban, le Hezbollah, qui est le principal acteur de la guerre hybride, il a brisé le blocus économique occidental américano-français, et la guerre hybride iranienne, elle a été exportée dans un autre pays qui est touché par la guerre économique occidentale. C'est le Venezuela, c'est Caracas. Il y a un corridor économique Téhéran, Caracas, Dakar, précisément, en Afrique, pour briser le blocus économique iranien. Aujourd'hui, c'est le Mali qui est au cœur de cette guerre économique avec la Russie et l'Iran. La visite du ministre des Affaires étrangères malien à Téhéran, après sa visite à Moscou, elle est en train d'officialiser cet axe Alger-Bamako, Moscou et Téhéran qui s'opposent à l'axe Paris et Paris et Washington. C'est cela qui est en train de s'officialiser, c'est cela qui est en train de se mettre en place. Il y a aujourd'hui un axe économique entre le Mali et le bloc de l'Est qui s'oppose à l'axe économique occidental avec sa politique de l'embargo et du blocus qui frappe le Mali, mais dont tous les peuples de la région, dont le principal agent de la France dans la CEDEAO, qui est Alassane Ouattara, est en train de frapper l'économie de son pays. C'est cela la réalité économique et politique et géopolitique dans la région. Et face à cela, c'est la Russie et l'Iran qui sont les principaux alliés du Mali et de la Centrafrique.
Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Un grand merci également à M. Pierre Dortiguier, politologue depuis Toulouse, d'avoir participé à l'émission du débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité africaine. Le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian a déclaré que la République islamique d'Iran était prête à partager ses réalisations dans divers domaines scientifiques et industriels, notamment la santé, avec le Mali. Amir Abdollahian a fait ses remarques lors d'une rencontre dimanche avec son homologue malien Abdoulaye Diop à Téhéran, tout en discutant avec lui des derniers développements régionaux et internationaux ainsi que de diverses questions d'intérêt commun. Il a déclaré que l'administration iranienne est résolue à améliorer les relations, les échanges et l'interaction avec le Mali dans tous les domaines d'intérêt commun, soulignant les grands progrès réalisés par l'Iran dans divers secteurs industriels et scientifiques, notamment les soins de santé, la médecine et les équipements médicaux. Le chef de la diplomatie iranienne a exprimé la volonté de Téhéran de transférer la technologie et de partager ses réalisations avec Bamako. Amir Abdollahian a souligné l'importance de l'échange de visites entre les autorités iraniennes et maliennes dans le but de développer des relations et a déclaré que les pays africains occupent une position particulière dans la politique étrangère de la République islamique d'Iran. Le ministre malien des Affaires étrangères, pour sa part, a déclaré que de son pays souhaitait renforcer les relations avec l'Iran, notamment dans les domaines commercial et économique. Diop a invité son homologue iranien Amir Abdollahian a effectué une visite à Bamako au plus tôt, ce qui a été accepté par la partie iranienne. Les deux ministres ont également souligné la nécessité d'élargir la coopération sur des questions d'intérêt commun, notamment l'éducation, la santé, les technologies modernes, l'élevage et l'énergie, en particulier l'énergie solaire, et se sont mis d'accord sur une feuille de route pour élargir la coopération bilatérale. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a accusé le Maroc et Israël d'être à l'origine de toutes les tentatives visant à creuser un fossé entre la présidence et l'armée en Algérie et à semer la discorde et de fausses nouvelles parmi la population. Dans une interview aux médias locaux diffusée de mardi soir 15 février, le président algérien Tebboune a indiqué que le Maroc a utilisé son appareil de propagande et de fausses informations pour frapper l'unité nationale algérienne et insulter l'armée algérienne chaque jour, notant qu'Israël soutient le Maroc contre l'Algérie. Le président algérien a estimé que la relation de son pays avec le Maroc s'était encore détériorée et il a accusé le régime israélien de soutenir Rabat dans ce domaine. Les tensions se sont intensifiées entre le Maroc et l'Algérie ces derniers mois. En août dernier, l'Algérie a annoncé de la rupture de ses relations avec le Maroc en raison d'actes hostiles à son encontre par le Maroc, ce qui a été démenti par le Rabat. Les tensions ont augmenté entre l'Algérie et le Maroc après que Rabat a normalisé ses relations avec Israël en 2020. Les propos du président Tebboune interviennent une semaine après le rejet de l'adhésion d'Israël à titre d'observateur à l'Union africaine. Les vétérans américains applaudissent l'éjection d'Israël de l'Union africaine par l'Algérie, a rapporté Algérie Patriotique. Le site américain Veteran Today estime que l'octroi du statut d'observateur à Israël à l'Union africaine équivaudrait à faire adhérer l'apartheid au sein de l'Union africaine lorsque l'Afrique du Sud se battait contre le régime ségrégationniste de Pretoria. L'Union africaine ne doit pas légitimer un régime d'apartheid comme Israël, lit-on dans le média alternatif américain qui cite un analyste convaincu que l'apartheid israélien doit être traité de la même manière que l'apartheid sud-africaine. La Tunisie considère l'Union du Maghreb arabe comme l'un de ses choix stratégiques. L'Union du Maghreb arabe, UMA, reste un choix stratégique pour la Tunisie, a réaffirmé mercredi le ministre tunisien des Affaires étrangères à l'occasion de la célébration du 32e anniversaire de la création de l'UMA. Dans un communiqué, le ministère a fait part de son souci quant à l'impératif de rassembler tous les pays de cette union autour d'un projet de coopération fructueuse dans tous les domaines. Le ministère a mis l'accent sur la nécessité de booster une nouvelle dynamique à l'UMA, de garantir tous les moyens susceptibles de faire face aux divers défis, notamment les enjeux liés au développement, à la prospérité, à la sécurité de tous les pays. Par ailleurs, il a insisté sur l'unité de destin de tous les pays de l'UMA, d'où la nécessité de multiplier de tous les efforts afin de surmonter ensemble les problèmes qui se présentent actuellement avant de permettre à l'action maghrébine commune de servir les intérêts de la population maghrébine. Notez que l'Union du Maghreb arabe, fondée en février 1983, regroupe la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, la Libye et la Mauritanie. Le Conseil de sécurité de l'ONU prolonge le mandat du groupe d'experts sur le Soudan. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté une résolution visant à prolonger jusqu'au 12 mars 2023 le mandat du groupe d'experts assistant le comité des sanctions concernant le Soudan. La résolution 2620, qui a obtenu le soutien unanime des 15 membres du Conseil, demande au groupe d'experts de fournir au comité des sanctions un rapport intérimaire sur ses activités au plus tard le 12 août 2022 et de fournir au Conseil de sécurité un rapport final au plus tard le 13 janvier 2023 avec ses conclusions et recommandations. Elle demande en outre au groupe de fournir tous les 3 mois au comité des sanctions des informations actualisées sur ses activités et exprime l'intention du Conseil de prendre les mesures appropriées concernant la prolongation du mandat du groupe au plus tard jusqu'au 12 février 2023. Le groupe a été créé par la résolution de 1591 du Conseil de sécurité de mars 2005 pour aider le comité des sanctions concernant le Soudan à surveiller l'application des mesures de sanctions. Cinq militaires nigériens ont été tués et 2 autres ont été blessés dans l'explosion d'une mine posée sur leur route par des terroristes au niveau du village de Sakia dans la région de Tillaberi, proche de la frontière avec le Burkina Faso, a annoncé le ministère nigérien de la Défense dans un communiqué. Aux environs de 11 heures de retour d'une patrouille de vérification de renseignements, un véhicule d'une unité des forces armées nigériennes du poste militaire de reconnaissance de Tiva a roulé sur un engin explosif improvisé dans les environs de Sakia, département de Gouties, a précisé dans son communiqué le ministère nigérien de la Défense. Pour rappel, la zone dite des 3 frontières, Niger, Mali et Burkina Faso, dans laquelle se situe Sakia, est devenu ces dernières années le théâtre d'opérations de groupes terroristes qui mènent des attaques meurtrières de la part et d'autres de frontières en visant les forces armées et les populations civiles. C'est dans cette même zone que le 7 janvier dernier, 3 gendarmes avaient été également tués dans l'explosion d'une mine artisanale au passage de leur véhicule non loin de la localité de Torodi, selon les autorités. Eh bien, chers amis, ici touche à sa fin cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne.